Pour ce jour on prend congé avec. Chase you out of earth.
Il est 20h03 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission en ce mardi 14 octobre, émission sur le thème un peu du basket, parce qu'on reçoit deux nouveaux invités, mais avant ça, je vais vous présenter l'équipe qui m'accompagnera ce soir, Paulin, et là c'est le Paulin.
Bonsoir à tous, bonsoir les gars, ravi de vous accueillir ce soir pour nous parler de votre club, et ravi d'être là comme tous les mardis soirs.
Et voilà, Mathéo est là aussi, salut Mathéo.
Bonsoir Faustin, bonsoir à tous. Et ben écoute, pareil, très content d'être ici, très content aussi d'accueillir le club de Saint-Barthélemy Basket, hein, qui fait vraiment un début de saison assez fou. Donc on va pouvoir discuter de ça, une année historique aussi pour le club. Donc ça va être très sympa comme émission.
Tout à fait, parce que la masculine 1 est fraîchement montée en N3. Et donc ce soir, pour nous parler de cette équipe et du club, on a Nicolas. Salut Nicolas.
Bonsoir.
Et Maxime, salut Maxime.
Salut à tous.
Voilà, on passera à l'interview évidemment juste après les actualités locales, vous en avez l'habitude. Après l'interview, on aura aussi les actualités internationales avec toujours plein de belles choses à dire. On va commencer sans plus tarder avec l'EAB qui gagne 102-75 contre Fougères. Grosse victoire qui fait du bien pour les Angevins. L'UFAB, elle, gagne contre les Estudiantes en Coupe d'Europe 85-75, puis perd 89-78 contre Chartres. Elles sont troisième au classement et en ce début de saison, c'est de très bon augure. Prochain match demain en Coupe d'Europe contre Bucarest. Du côté de Cholet, lourde défaite en Ligue des Champions contre Badalone, 91-73. Et puis, première défaite en championnat, 76-64, contre une équipe dont je n'ai pas
Dijon.
Le nom. Dijon, merci. Prochain match, ils jouent en ce moment en Ligue des Champions contre Bursaspor. On donnera le résultat à la fin de la pause musicale. Pour les Ducs, défaite 5-0 contre Gap, la première de la saison après un 5-5. Va falloir se reprendre contre Brest en Coupe de France. Du côté du SCO Handball, défaite contre Cherbourg 29-36. Peut-être que cette petite trêve a empêché les Angevins de continuer sur leur bonne dynamique de 2 victoires d'affilée. En tout cas, faudra là aussi réagir vendredi contre Frontignan pour potentiellement accéder au top 10. C'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de dire du côté du SCO Handball après les deux dernières saisons qui étaient assez catastrophiques, notamment la saison dernière où il n'y a pas eu une seule victoire de toute la saison. Maintenant du côté du SCO, même s'il n'y a pas eu de match, il y a une actualité, c'est une nouvelle recrue qui est confirmée. Je pense que cette fois la communication a été faite quand la venue du joueur a été confirmée à 100%, et c'est donc Amin Esbaï qui rejoint les rangs angevins. Il évoluait du côté de Al Fateh en Arabie Saoudite la saison dernière et a notamment joué à Grenoble pendant 2 saisons. Il vient renforcer les ailes angevines après les départs de Ferhat et d'El Melali. Autour de la table, qu'est-ce qu'on pense de cette arrivée?
Bah forcément, on est sur la pire attaque du championnat pour le SCO, 3 buts en 6 rencontres, je crois. Donc forcément, il fallait recruter un offensif. C'est un joueur qui est assez intéressant, qui a jamais évolué en Ligue 1. Donc on va voir. Il a évolué en Ligue 2, en Arabie Saoudite, comme t'as dit, où l'année dernière, en 26 matchs, il a marqué 6 buts et fait 3 passes D, je crois. C'est un joueur qui peut apporter. Il est assez jeune quand même, il a 24 ans aussi, il faut le notifier. Donc c'est une recrue assez intéressante, on verra. Est-ce qu'il peut aspirer à un poste de titulaire ou pas? En tout cas, il peut nous faire du bien, ça c'est évident.
Ouais, pour toi, Paulin, un bon recrue?
Bah, de toute façon, j'ai envie de dire, comme l'a dit Mathéo, on prend tout ce qui va venir renforcer, on va dire, notre attaque. Pour le coup, il a montré des bonnes stats aussi sur quelques matchs en début de saison en Arabie Saoudite. Alors forcément, la Ligue 1, c'est pas le même championnat, mais en tout cas, on sait que ça peut être un joueur avec un profil qui peut aller dans le sens du SCO et de ce que peut proposer du jeu. Donc on verra, mais en tout cas, une recrue, ça fait plaisir, on va dire.
Voilà, en espérant que elle soit assez efficace dès ce week-end. Réception de Monaco samedi à 19h. Petite information, je serai dans les tribunes de Raymond Coppa. Je pourrai en parler longuement mardi prochain pour voir évidemment Ansu Fati. dernière info locale, c'est tout simplement la victoire de Saint-Barthélemy contre Luçon-Saint-James, 75-62. Et on va commencer l'interview comme ça. Nicolas, comment s'est passée cette rencontre?
Extrêmement bien. On a réussi pour la première fois de la saison, je pense, à être constant sur la quasi-totalité du match. Il y a encore quelques points à améliorer, mais globalement, c'est hyper positif. Donc, avec une grosse assise défensive, on n'encaisse que 62 points, ce qui est très fort sur ce niveau-là. Et puis, on arrive à mettre un peu le feu de temps en temps offensivement dans notre salle. Donc ça s'est très bien passé. C'est encore une belle victoire pour nous.
Très bien. Bah du coup, avant de revenir un petit peu sur le parcours de votre équipe et de votre effectif, on va commencer par des présentations. Est-ce que chacun votre tour, d'abord toi Nicolas, puis après toi Maxime, vous pouvez vous présenter votre parcours, ce que vous faites et votre rôle au sein de votre club?
Donc je m'appelle Nicolas Berger, je suis entraîneur de l'équipe masculine de Saint-Barth depuis c'est ma troisième saison. Mais je coachais déjà cette équipe-là il y a quelques années avant que Max reprenne. Vous verrez qu'on est un duo, on fait des passations de pouvoir pas mal depuis quelques années. Donc j'ai entraîné l'équipe de la DM3 jusqu'à la R3. Et puis j'ai repris l'équipe avec Max du coup en R1 il y a maintenant 3 saisons. Et donc voilà, c'est un club dans lequel j'ai commencé en tant que salarié il y a maintenant quelques années. Je saurais même pas dire combien de temps. Et donc ça a construit mon travail aujourd'hui. Enfin, je travaille au comité départemental de basket, mais je reste encore entraîneur de l'équipe, juste entraîneur de l'équipe masculine senior.
Très bien. Et du coup, la place que tu occupes au comité, c'est principalement axé sur quoi? La formation des jeunes joueurs. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ton rôle?
Très rapidement, j'ai pour tâche, oui, de faire la détection et la formation des joueurs et de la joueuse sur tout le département. Je fais pas mal d'événementiels et le développement du 3-3. Donc voilà, c'est partie intégrante de mon travail, c'est ça.
Très bien. Et pour toi, Maxime, du coup?
Moi, ça fait du coup maintenant 7-8 ans que j'ai les gars, à peu près. J'ai fait une pause juste l'année dernière, mais j'ai repris la R3 que Nico avait quittée à l'époque. On est monté. Alors il y a eu les périodes Covid à cette époque-là, qui nous ont empêché en fait sur deux saisons successives d'accéder à la montée. Alors il y en a une, il y avait que 4 matchs, mais on était à 4-0 quand même. Et voilà, mais en 5 ans, on est monté jusqu'en R1, jusqu'en pré-national. Du coup, je sentais que j'avais un petit coup de mousse. Ça faisait longtemps que j'avais les gars. J'ai demandé à Nico de revenir. On a une doublette qui fonctionne bien, mais vraiment bien, sur et en dehors du terrain. Donc voilà, ça me tenait à cœur que ce soit lui qui reprenne, et bosser avec lui, ça m'intéressait aussi. J'ai fait une pause l'année dernière, ils sont montés en N3, Nico m'a rappelé et me revoilà, et voilà, j'ai commencé moi le basket à Saint-Barthélemy, c'est pour ça que je suis attaché à ce club-là. Là ça date aussi. j'ai commencé à 8 ans le basket là-bas. Donc voilà pour ça. Et mon job à Saint-Barth, du coup, en plus d'être assistant sur la National 3 avec Nico, je suis salarié au club et je m'occupe de toutes les catégories, ainsi que du suivi d'Axel qui est en BP basket cette année. Voilà.
Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un moment donné dans votre carrière, on va dire, de coach, où vous vous imaginiez coacher à ce niveau-là, au niveau national?
Oui.
Oui.
Sûrement pas Saint-Barth. Enfin, en tout cas, c'était un projet dans nos têtes qu'on avait depuis très longtemps. Mais bon, c'est entre le projet et la réalité, c'est sûr qu'il y a un niveau. Donc, on y pensait. C'était pas un objectif particulier de coacher à ce niveau-là. Mais alors, par contre, de le faire à Saint-Barth, on est hyper content de le réussir. Donc, oui, c'est des niveaux sur lesquels on se projetait quand même, Max et moi, assez rapidement, quoi.
Ok, très bien. On va revenir sur la saison dernière aussi, Faustin.
Bah ouais, tout à fait. Et tout simplement, à quel moment la saison dernière vous étiez en train de vous dire que vous pouviez le faire, que vous étiez en train de le faire, cette montée était accessible?
Je pense que ça remonte à il y a 2 ans, en fait. Même pas l'année dernière. Là, il y a 2 ans, quand on était tous les deux avec Max, on montait de R2 en R1. On a fait une très bonne saison. On touchait du doigt cette montée sans forcément que ce soit un objectif. On a fini 3e la première année. Et l'année dernière, alors dès la prépa, c'était un objectif pour tout le monde. Donc, okay. On a été en difficulté. C'est pas une saison facile. Monter, c'est toujours difficile, mais bon, c'était dans nos têtes depuis le départ. Donc, il y a eu des moments difficiles, mais on a toujours été dans le top 2, top 3 toute l'année, et puis on a toujours couru derrière ça, quoi.
Ouais, il y a pas eu de doute durant cette saison de se dire finalement, c'est compliqué.
Si forcément. Alors c'est du sportif, hein. Une année c'est jamais parfait, ouais. Surtout sur le niveau amateur. Donc il y a des moments où on a douté, puis il y a eu d'autres moments où on était sûr de nous. Les matchs les plus importants, on les a pris, donc c'est ce qui nous a permis de réussir, quoi.
Il y a peut-être un match en particulier qui vous a marqué?
Ben ouais. Est-ce qu'on peut revenir sur la soirée du 17 mai 2025? Quels souvenirs vous en gardez? Quelles émotions là comme ça vous a procuré?
C'était le scénario parfait, dans le sens où en fait on jouait cette montée contre une équipe qui jouait aussi la montée, qui était juste derrière, qui avait encore tout, enfin elle qui pouvait tout perdre, hein. Il suffisait qu'on gagne et c'était terminé pour tout le monde. Donc c'était une finale avant la fin du championnat. On était à la maison, il y avait pas d'autres sports ailleurs, je pense, ce soir-là. Donc la salle était pleine à craquer. Alors forcément, il y a un peu de nervosité. Je me rappelle du début du match, c'est loin d'être parfait. Mais le sentiment, à la fin, on avait le sentiment du devoir accompli. On était hyper content. On a fêté ça comme il se doit avec tout le monde. Mais vraiment, ce sentiment, on a ressenti, ça y est, on y est, on a réussi le job et on est très vite. Enfin, je me souviens très vite me projeter dès le lendemain, en me disant bon, bah maintenant, on a un peu de travail parce que voilà. Je pense qu'on s'est appelé avec Max dès le lendemain et puis on a dit bon, comment on fait, comment on y va, et puis voilà, c'était vite parti après.
Maxime, t'étais présent toi pour le match?
Eh bien, alors j'ai passé un super week-end, j'étais avec des potes et qui sont pas du tout basket, sauf que j'ai raté une bonne partie de la soirée puisque j'étais devant mon téléphone, j'ai demandé à ce qu'il y ait un live et j'étais devant le live et finalement mes potes m'ont tous rejoint et étaient derrière aussi, donc okay. On a suivi ça avec attention.
Ouais, très bien. Et moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cette ambiance qui règne à Saint-Barthélemy? Parce que c'est vrai que, par exemple, nous, avec Faustin, on connaît le club, on a déjà eu affaire à jouer contre vous. Et moi, j'ai envie de dire que se déplacer à Saint-Barthélemy, ou plutôt à Rio, du coup, j'ai envie de dire, c'est assez particulier. Ça vient d'où? Saint-Barth, c'est le Brésil.
Ah, ça c'est... On a démarré en DM3 avec une équipe de jeunes. Ils étaient encore, on les avait surclassés. C'était des cadets surclassés qui étaient en région à l'époque. Et assez rapidement, c'est des délires de jeunes adultes, on va dire. Ils ont créé une petite chanson en soirée comme ça. C'est un bar, c'est le Brésil. Et puis du coup, elle a traversé un petit peu les années, cette chanson. Au final, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un joueur de cette génération-là qui est encore dans l'équipe. C'est pas forcément l'instigateur de cette chanson au départ, mais ça a suivi. C'est un peu cette identité d'équipe au départ, vraiment d'équipe, qui s'est, grâce au travail des bénévoles, grâce au travail de pas mal de monde, qui s'est répandu dans tout le club, même sur le minibus d'ailleurs, il y en a partout. Donc c'est un peu, c'est l'histoire d'une équipe au départ qui a pris sur tout le club, quoi.
Ouais, j'imagine que cette ambiance, elle était au rendez-vous pour le match de la montée. Et est-ce que elle est encore au rendez-vous? Est-ce que elle est d'autant plus présente là cette saison, sur le début de saison, en tout cas sur les premiers matchs de National?
On a été plutôt surpris sur un premier match amical contre Saint-Laurent-de-la-Plaine. Je me rappelle un jeudi soir ou un mercredi soir en pleine semaine. Mercredi soir, pleine semaine, et là on regarde, salle comble, on fait ah bon, va peut-être falloir s'attendre à ce que ça soit un peu blindé cette année. Finalement, la salle se remplit plutôt bien. On s'attendait à ce qu'il y ait un peu plus de monde et que vraiment ça soit un chaudron tous les matchs. Je sens que ça va monter en puissance, d'autant que les résultats en fait vont peut-être attiser les curiosités. Après, oui, l'ambiance générale et l'atmosphère générale, en tout cas, est plutôt très bon. En tout cas, tout autour de ça.
Est-ce que Saint-Bar a la meilleure ambiance du Maine-et-Loire?
Oh non,
non,
non.
Là, vous allez vous déplacer à la Séguinière,
voilà,
pour le prochain match. Donc, on sait que là-bas aussi, c'est une ambiance assez chaude. Donc, ça nous amène à parler un petit peu, Faustin, de la saison actuelle et de vos très bons résultats sur ce début de saison.
Tout à fait. Et puis, je vais commencer sur qu'est-ce qui a changé pour vous de cette montée en N3. Est-ce que ça vous a apporté des changements au niveau des entraînements, au niveau des transports, évidemment? Comment vous adaptez à cette montée en N3?
Au niveau du changement un peu en interne, alors le club nous suit énormément. Ouais. C'est le premier truc à dire, que ce soit financièrement, alors sur parce que c'est un engagement, c'est au niveau de la fédération, c'est des transports. Donc là aujourd'hui, on a des minibus on a un minibus qui appartient au club. On est soutenu par la mairie qui nous prête aussi un minibus pour les déplacements. Donc il y a tout un tas de choses qui se mettent en place et c'est une partie qui est globalement financière. Donc là, on est vraiment soutenu par nos dirigeants et par la mairie. Faut aussi le souligner. Après, nous, dans notre fonctionnement, on n'a pas changé grand-chose. La recette marche depuis maintenant quelques temps, donc on va pouvoir non plus tout transformer. On est peut-être un peu plus rigoureux, plus pointilleux sur certaines choses. On a des joueurs de qualité aussi qui ont rejoint l'effectif. Mais globalement, on va surtout pas changer de méthode. Les gars prennent du plaisir. On est sérieux jusqu'au bout. Et puis on verra ce que ça donne. Enfin, en tout cas, on s'était dit, on verra ce que ça donne déjà.
Ouais.
Ça.
On a maintenu les deux entraînements semaine. Il y a des gars qui viennent faire du shooting de temps en temps le lundi, mais on a maintenu deux entraînements semaine. On maintient la bouffe du jeudi soir, qui peut tarder ou non selon les motivations et les humeurs de chacun. Les gars ont tous payé leur licence. Ils font tous des actes de bénévolat au sein du club. Ils font tous des responsabilités de salle. Ils participent à des événements. Ils sont là pour les jeunes aussi, donc en fait c'est un prêté pour un rendu aussi. Le club leur donne et ils le rendent très très bien aux jeunes et à l'ensemble des licenciés.
Ouais, au niveau de cet effectif justement qui a l'air vachement solide et solidaire. Est-ce qu'il y a quand même eu des arrivées, des départs?
Il y a eu un départ qui était d'autres. Enfin voilà, c'était une décision de staff sur un joueur qu'on estimait que ça irait peut-être moins sur le niveau N3 avec nous. Globalement, je crois que il y a qu'un seul départ, ouais. Et on a plusieurs arrivées, donc on a un groupe. Aujourd'hui, on a un effectif de 14 avec une règle de fonctionnement qu'on a fait avec les gars. On peut pas jouer à 14, ça marche pas. Donc on a trois arrivées, on a quatre arrivées plutôt. On a Enzo Humo de Brissac qui a signé chez nous, Mathéo Valton de l'EAB, Thomas Chardron de Belbeil, alors lui qui joue en R2, un niveau en dessous, mais sur lequel on croit beaucoup. En tout cas, ça faisait un moment qu'on croyait beaucoup pour nous rejoindre. Et puis Florence Ungrana qui était non mutée, donc lui qui avait pas de club l'année dernière, qui s'entraînait déjà avec nous depuis le mois de janvier et qui nous ramène un peu de densité aussi dans le secteur intérieur.
On a des bons sparring aussi.
Et on a
des bons sparring avec Laurent Norbal qui nous amène toute son expérience. C'est un joueur qui a évolué en N2, N1.
Ouais, en N1,
je vois. N1, ouais. Et on a Diego, qui faisait partie de l'effectif l'année dernière, qui est parti au Venezuela pour jouer au niveau professionnel au Venezuela en février, je crois, l'année dernière.
Ouais.
Et du coup, qui était un peu dans le même profil cette année. Et on avait fait le choix avec Nico de dire, OK, pour les entraînements, mais sur la continuité de l'année, ça allait être compliqué de l'intégrer. Donc, voilà.
Un bon sparring, ouais. Moi, j'allais revenir sur Matteo Valton, qu'on a eu la chance de recevoir dans le studio la saison dernière, en tant que joueur de l'EAB, du coup. Comment ça s'est fait, ce transfert? Est-ce que c'est lui qui est venu vers vous? Est-ce que c'est vous qui êtes venu vers lui?
Alors, c'est lui qui nous a contactés. Alors, par le biais, on a Yann Kemener, un de nos joueurs, issu de Saint-Barth, d'ailleurs, qui est très copain avec Matteo. Donc ils échangeaient sur leur saison respective et Matteo, je pense, avait besoin de revivre un petit peu ce côté, enfin de sortir peut-être du milieu professionnel. En tout cas, c'était une envie de sa part, ce qui fait qu'il s'est rangé vers un club comme le nôtre. Donc voilà, on est un pur club amateur. En tout cas, à ce niveau-là, on lui a bien dit, est-ce que tu es bien sûr, parce que tu vas arriver dans un endroit où tu vas faire des arbitrages, tu vas faire plein de choses. Et c'est lui qui nous a sollicité, donc il est venu s'entraîner une ou deux fois, et puis rapidement il a foncé dans le projet, il a aimé cet état d'esprit là, puis il avait un rôle, enfin voilà, on a vite senti que c'est un joueur qui prendrait de l'importance dans l'effectif, donc je pense que c'est un besoin de sa part suite au parcours à l'UAB qu'il avait.
Ouais, l'adaptation vous la sentez effectuée ou il reste encore quelques petits pas à faire pour qu'il soit complètement intégré à cet effectif?
Il y a encore des petits pas à faire. On a l'impression qu'un joueur qui vient de N1 et qui va jouer à N3 va dominer et va marcher sur tout le monde. Or, c'est pas le cas. On n'est pas sur les mêmes timings, on n'est pas sur les mêmes adversaires, on n'est pas sur les mêmes qualités de partenaires non plus. Donc du coup, il y a un gros travail d'adaptation que Matteo est en train de fournir et continue à fournir. Maintenant, on est quand même sur une très bonne voie. Voilà, ça monte en puissance.
Ouais, il fait des vrais perfs.
Ouais.
Il peut faire beaucoup mieux, il le sait, on le sait tous, mais voilà, il avance tranquillement.
Ouais, ça va venir, on n'attend que du meilleur pour la suite. Maintenant que la saison est lancée, donc, quel était l'objectif avant de jouer, ne serait-ce pas, avant que d'avoir joué un seul match en N3, c'était quoi votre objectif? Un maintien, une montée?
Gagner un match.
je crois qu'on s'était dit gagner un match au départ.
Quand on a gagné le premier, on s'est dit bon, gagner deux matchs. Et puis quand on a gagné le deuxième, bon, allez, trois. Et l'objectif reste le même, je pense. Enfin, on est plutôt OK, Nico. L'objectif reste le maintien. On n'a pas du tout, en tout cas, le club n'a pas du tout la capacité à pouvoir intégrer cet effectif-là en NM2, puisqu'on est sur un club semi-pro après, et ça engendre un côté financier qui est monstrueux. Et là, aujourd'hui, en N3, pour rappel, on paye zéro joueur, vraiment. Et voilà, on n'a pas du tout la capacité financière pour ça.
Et il y a aussi... enfin, en fait, l'état d'esprit des gars aussi, c'est un match après l'autre, quoi.
Ouais, c'est ça.
Alors, si à la fin, on finit sur une très belle place, sur un... Voilà, si on fait ce qu'on est en train de faire actuellement toute la saison, alors on sera super content. Maintenant, le jour où on aura validé notre maintien mathématiquement, on sera encore plus content. Je pense que ce sera cette étape-là. Après, si on devait définir un objectif peut-être qui va plus loin que la partie sportive pure, c'est si on peut remplir cette salle, faire plaisir aux gamins du club, que les bénévoles soient heureux d'être là comme ils le sont actuellement, que les gars prennent du plaisir, en fait que tout le monde s'amuse, que ce soit la fête tous les 15 jours dans la salle de Saint-Barth, ça ce serait déjà super. Et puis plus on le vivra longtemps, mieux ce sera, quoi.
Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, du coup 4 victoires et une défaite en ce début de saison, c'est prodigieux. Qu'est-ce que vous retenez un peu de ce début de saison, les points forts de votre équipe, les points faibles de votre équipe?
Vas-y, Monique.
Ouais. Bah, on est surpris sans être surpris. Je sais pas si ça te fait, ouais, ça fait pareil. On a des joueurs avec de grosses qualités, notamment des qualités d'adresse. Alors, sur la partie défensive, même s'il a fallu s'adapter au niveau N3, et c'est pas encore totalement fait, hein, on était la meilleure défense de R1 l'année dernière et de très loin, donc on avait des bases défensives qui étaient intéressantes. Donc aujourd'hui, ça reste une force. En tout cas, ça l'a été ce week-end. On a une vraie qualité d'adresse, une vraie qualité de jeu rapide. On n'est pas les plus athlétiques de l'UFU championnat. On n'est pas les plus grands. On a des gros caractères ça aide dans ces moments-là d'avoir du caractère. Donc on a toute cette partie-là. Maintenant, je pense que Et ça continue d'avancer, c'est super parce qu'on engrange des victoires grâce à ça, mais on est encore irrégulier sur ce niveau National 3. Je pense qu'on va vite comprendre. Enfin voilà, on sait qu'on va la Séguinière dans 15 jours. Ah, si on peut y aller et gagner, c'est super, hein. On va pas faire la fine bouche. Par contre, on va se confronter à une équipe de haut de tableau N3 qui est habituée à la N3 et qui va nous mettre en difficulté, justement.
Ok, maintenant, est-ce que t'as une envie de définir un style de jeu à Saint-Barth? Axé plus défensif, faire de tes joueurs des bulldogs qui auront juste envie de gagner la balle en défense, ou alors axé sur l'attaque, genre de choses?
Bah, ouais, y a un terme, c'est déjà d'être solidaire.
Okay.
En fait, c'est le terme qu'on sort depuis un moment, parce que c'est pas forcément une force au départ. Ça, c'est, des fois, on n'est pas solidaire. Sauf que quand on l'est, on est. Ce week-end, on avait 10 gars plus 2 qui étaient sur le banc plus ceux qui n'étaient pas là. Enfin voilà, et on était tous solidaires. Même les sparring étaient là. Enfin, il y avait Diego qui était sur le banc. On était tous au taquet. Je pense que, d'autant plus sur une année de montée, c'est une solidarité de dingue. Enfin, moi j'ai pris un plaisir monstrueux à devoir pousser les gars, parce qu'ils sont toujours debout. Forcément, quand on met un panier, tout le monde se lève. Donc, moi je me fais engueuler par les arbitres derrière. Moi, je passe mon temps à les pousser. Rasseyez-vous, messieurs. C'est la force de cette équipe. Après, oui, on est capable de mettre dedans à 3 points. On est capable de jouer sur le jeu rapide. Ça, c'est des détails. Mais je pense qu'il y a d'autres équipes dans la poule qui sont aussi capables de le faire. Par contre, en termes de solidarité, je pense qu'on est pas mal.
On est bien. Ouais. Ça comble un déficit physique qu'on remarque souvent aux échauffements. Enfin, je sais pas si vous êtes venus, mais quand tu vois l'échauffement, tu vois notre équipe, tu vois les gars, d'en face, tu dis ouf, ça va monter haut, ça va aller vite, ça va aller fort. Et finalement, en fait, c'est le bloc équipe qui fait la différence. Et ça, on en est hyper fiers et hyper fiers des gars à ce niveau-là, quoi.
Et par rapport à cette solidarité aussi, du coup, le groupe de joueurs que vous avez, sur la plupart, ça fait combien de temps qu'ils jouent ensemble et qui, enfin, en fait, c'est quoi les steps que vous avez montés ensemble jusqu'à arriver en N3? Est-ce que c'est des gars qui ont connu la départementale 1, la R3, et qui ont joué ensemble pour
Je peux en parler. Ouais. Bon, on a la pierre du groupe, en gros, enfin. Entre guillemets, le gars qui est là depuis plus longtemps que tous les autres, c'est Babou. Il a fait D3 jusqu'à National 3.
Oh. Baptiste Brossard, du
Baptiste
coup.
Brossard, ouais.
Il était mon prof de PS pour l'anecdote. Hein.
Donc, à chaque fois, on se disait, ah, tiens, peut-être le plafond de verre. Et puis, en fait, il repoussait. Ah, tiens, peut-être le plafond de verre. Et il repoussait. Le week-end dernier, c'est lui qui envoie un match de fou furieux. Je sais pas, il doit mettre 15, 17 points, peut-être, ouais.
Je crois qu'il est un peu moins que ça.
Ouais, un peu moins.
Mais 12, je crois.
12? Ok. 12. Mais en gros, c'est lui qui fait lever la salle, c'est lui qui nous donne cet élan dont on avait besoin pour creuser l'écart au bon moment. Les deux premières recrues, ensuite, quand moi je suis venu à Saint-Barth, et c'est important de notifier, en fait, c'est Clément Gazo et Nicolas Thoman, et qui sont aujourd'hui secrétaires et trésoriers du club. Donc Nico secrétaire et Clémence trésorier. En fait, ça prouve à quel point en fait les gars sont impliqués dans le projet et impliqués pour le club. On a eu du Lilian Château derrière qui est coach de l'équipe 2 aussi. En fait, on a pris des profils humains et basketteurs. Mais l'humain vraiment passait devant tout, ce qui fait qu'en fait il y a une vraie fraternité. On en discutait avec Florent qui a eu quelques expériences N3 et il nous disait c'est la première fois que je vois un groupe comme ça, aussi solidaire et avec lequel je m'éclate autant, quoi.
Oui, donc il y a une vraie force collective qui s'est installée déjà depuis pas mal de temps et vous en faites pas pour Baptiste Brossard et les concours à 3 points en seconde, il était déjà un joueur. Donc ça a pas dû changer, je pense. Faustin, je te laisse conclure.
Ouais, bah, je vais vous laisser conclure. Vous, est-ce que vous avez un mot de la fin pour nous donner envie de venir aller voir jouer Saint-Barth à Saint-Barth?
Pour l'instant, on gagne, donc faut venir. moi, ce que j'aime à dire aussi, c'est, alors, il y a beaucoup de basket dans le secteur, il y a Brissac, alors, je parle pas des pros même, mais il y a Brissac, il y a Lamboisière, enfin, on a du niveau beaucoup, enfin, plus haut que le nôtre, dans le secteur, mais on est peut-être le seul club de niveau national en basket où il y a une accessibilité totale, en fait. Notre salle, elle est ouverte à tout le monde. Ce qu'on veut, c'est juste que les gens profitent. Donc faut être curieux, faut venir voir, et puis voilà. Donc et puis tant qu'on gagne, voilà, c'est plutôt des bonnes soirées en général. Faut profiter.
Tout à fait. Merci à vous. Merci Maxime. Merci Nicolas d'être venu.
Merci.
Merci les gars. Et on souhaite évidemment tout le meilleur pour la suite de la saison. Ce sera du coup dans 15 jours contre la SEG, où on espère revenir avec une victoire. En attendant, on va passer à la pause musicale. Une fois n'est pas coutume, on va s'écouter du Yanis, son nouvel album qui est sorti récemment, et son Emoticône.
Je fais que quand je casse les stems. S'il y a trop de buzz, faut que je ferme les stores. C'est sport, cette merde, je crois que t'as capté ce thème. Je garde les ennemis à bonne distance. Puis je compte les amis qui me restent. T'as quelques cas, tu fais la resta. Migo, même le cash t'achète pas le respect. Tu mets tout dans la piaf, rien dans la pire. Bâtard, c'est toujours moi, mais ça bim. Bâtard, je suis prêt à tout, prêt à crier jusqu'à tard. Mais jamais je vais switch pour un billet du Qatar. Tu laisseras pas d'héritage, on va piller ton cadavre. Depuis le temps qu'on a barrage, quitte ton boss d'arrache. Pied jusqu'à maîtriser les cadavres. J'ai deux bras, deux jambes, je sais même pas quoi demander de plus. Pourtant sourcil français, comme quand j'attendais le bus. J'parle mal pour que des sous j'en ai plus. J'parle mal pour que des sous y'en ait plus. J'mets du cœur à l'ouvrage, donc tu pourras nous watch à la télé quand j'ai planté le but. J'parle tout seul au bigo. Ce soir j'parle à la lune. J'parle en émoticône. J'veux me perdre dans la hure. J'me retrouve au micro. Elle met des larmes sur mes fers. Mais j'dois bosser sur mes fers. Demain j'passe à la lune. J'parle tout seul au bigo. Ce soir j'parle à la lune. J'parle en émoticône. J'veux me perdre dans la hure. J'me retrouve au micro. Elle met des larmes sur mes fers. Bosser sur mes fers, ça va.
Et voilà, c'était l'excellent Yanis, son excellent album D&D que je vous conseille fortement d'aller écouter par Beyond the Banger, évidemment Emoticône. J'ai oublié de dire au début de l'émission, on est aussi en live sur Twitch, messieurs, pour c'est la vrai. Première fois de la saison.
Incroyable.
Voilà, on suit un peu nos amis du QG qui étaient là avant, qui nous ont laissé leur belle webcam. Vous pouvez donc nous retrouver sur Twitch si vous allez sur le site de la radio. Il y a un petit bouton normalement directement live vidéo. Voilà, on peut faire coucou aux caméras. Ça fait plaisir. Vous pouvez aussi participer via le chat. On va reprendre les actualités avec d'abord celle que j'ai oublié de donner tout à l'heure. C'est Cholet qui jouait donc son deuxième match de Ligue des Champions et qui s'est cette fois emporté, qui l'a cette fois emporté, 84 à 72 donc contre Bursaspor. Voilà, après deux défaites la semaine dernière. Ça fait plaisir. On va enchaîner du coup avec les actualités internationales et l'équipe de France, Mathéo.
Oui, une semaine contrastée pour l'équipe de France. Elle a débuté vendredi au Parc des Princes face à l'Azerbaïdjan. Un succès 3-0, sobre, marqué par un bijou de Kylian Mbappé. Le Madrilène a débloqué la rencontre juste avant la pause d'un numéro solo avant d'offrir le second but, Adrien Rabiot. La soirée qui a pris une tournure plus inquiétante lorsqu'il a quitté le terrain, touché à la cheville droite. Heureusement, le retour de Florian Thauvin a redonné le sourire au public 6 ans après sa dernière sélection. Le Lensois inscrit un bijou acrobatique 1 minute seulement après son entrée en jeu. Et puis 3 jours plus tard, les Bleus ont en revanche marqué le pas, hein, en Islande. Sans Mbappé, les hommes de Didier Deschamps ont manqué de rythme et d'inspiration, avec un score final de 2-2. Christopher Nkunku a égalisé après l'heure de jeu, avant que Jean-Philippe Mateta, titularisé pour la première fois, hein, signe son tout premier but en équipe de France. Mais un manque de rigueur défensive a offert l'égalisation aux Islandais quelques minutes plus tard. Les tricolores restent invaincus et maîtres de leur destin, mais il faudra patienter jusqu'à novembre pour valider le billet pour la Coupe du Monde face à l'Ukraine avant un déplacement à Bakou 3 jours plus tard. Les gars, je vous pose la question, quel bilan vous faites vous de ces deux rencontres, hein? On est quand même à quelques mois de la Coupe du Monde. C'est des équipes faibles, mais ça nous permet aussi de voir la profondeur de banc à l'équipe de France. Donc je vous questionne, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Je pense qu'il faut relativiser. Moi, je me dis pas d'inquiétude parce que on sait les forces et faiblesses qui étaient présentes en équipe de France et les blessures aussi. Ouais. On a beaucoup de joueurs qui sont restés sur le côté, et Didier Deschamps l'a rappelé aussi en après-match. Alors, face à l'Azerbaïdjan, une victoire 3-0 qu'on peut qualifier aussi d'un peu poussive parce qu'on s'attendait peut-être à un score un peu plus élevé. Mais la belle histoire, je trouve, c'est quand même la rentrée de Thauvin et son but dans la foulée, la minute qui suit. Ça, c'était beau et on a tous apprécié le moment, d'autant que c'est un but assez acrobatique. Il avait déjà marqué un but comme ça aussi avec l'équipe de France. Et face à l'Islande, tu l'as dit, et Deschamps l'a rappelé, une erreur défensive juste après le but de Mateta, un bloc trop, une défense qui s'est pas organisée, et derrière on a encaissé. Mais comme l'a rappelé Deschamps, il n'y a pas d'inquiétude, toujours premier du groupe. Alors forcément, des fois on peut se dire que par rapport au jeu proposé, par rapport aussi aux premières mi-temps contre l'Azerbaïdjan et contre l'Islande, c'est vrai qu'elles étaient décevantes. J'ai trouvé la deuxième mi-temps hier meilleur. Alors à part l'erreur défensive, on a dominé et il y a eu des bonnes rentrées, notamment l'entrée de Marnes Sakliouche, qui a fait une meilleure rentrée contre l'Islande que face à l'Azerbaïdjan. Mais il y a du positif à en retenir. En tout cas, par exemple, la première titularisation de Mateta et son premier but, ça peut lui donner de la confiance. Est-ce qu'il sera rappelé ou pas? On verra, mais voilà, moi je reste sur un bilan. Pour le coup, je vais pas aller fort, je vais pas aller tacler fort, on va dire. Je trouve qu'il y a pas d'inquiétude et on sait qu'on arrivera à décrocher notre billet, même si c'est en novembre.
Ouais, ça, moi j'avoue, j'ai pas pu voir les deux matchs. J'ai vu que la toute fin du match contre l'Islande, mais de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu des extraits, ça reste quand même du... J'allais dire, ces phases de qualification, ça reste du Deschamps, c'est job is done, mais on a fait le minimal, quoi. Ça va passer, on va se qualifier, je pense, pour la Coupe du Monde, il y aura pas trop de soucis à se faire. Mais c'est vrai que sur le jeu proposé, on n'a pas vu la grande équipe de France, sûrement dû aux blessures, évidemment. Mais face à l'Azerbaïdjan, face à l'Islande, on pouvait quand même s'attendre à vachement mieux. Et j'ai un petit mot pour Jules Koundé, qui a été complètement matrixé par Hansi Flick à vouloir jouer le piège du hors-jeu sur une action comme ça. Mais ça m'a fait rire plus qu'autre chose.
En vrai, on a quand même des choses rassurantes aussi, je trouve, dont tu as un petit peu parlé, Paulin. Mais c'est vrai que la rentrée d'Akliouche, elle fait du bien. La titularisation de Mateta aussi, elle nous apporte quelque chose dont on avait parlé la semaine dernière, hein, ce profil très différent aussi, notamment de placement. On le voit sur le 2-2, hein, le but du 2-2 qui est quand même assez intéressant. Et moi, il y a un joueur aussi qui m'a marqué, notamment contre l'Islande, c'est Lucas Digne, que j'ai trouvé très juste dans son jeu. Et justement, c'est quand même assez intéressant, je trouve, dites-moi ce que vous en pensez aussi, mais d'avoir... potentiellement une petite montée en puissance de Lucas Digne juste avant la Coupe du Monde, à un moment où voilà, on se pose des questions sur Théo Hernandez, qui est parti en Arabie Saoudite aussi, donc qui est beaucoup moins compétitif à l'année. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce côté gauche peut enfin être sécurisé aussi par un Lucas Digne que j'ai toujours trouvé assez honnête en équipe de France, moi?
Bah, déjà tu l'as dit, c'est le côté rassurant là de trouver un joueur patron sur ce poste de défenseur gauche. On sait que c'est toujours un poste qui reste en suspens. Alors on a eu Théo Hernandez taille patron sur plusieurs années aussi, mais là moi je trouve que Lucas Digne, pour le voir évoluer en première ligue avec Aston Villa, déjà rien que la saison dernière, le match que j'étais allé voir à Villa Park, enfin il est vraiment intéressant. Et je veux dire, sa place à Aston Villa en tant que défenseur gauche, elle est jamais remise en cause. Il est titulaire, il jouera les matchs et il est estimé par Unai Emery. Là, les performances qu'il montre avec l'équipe de France, ça vient justement, on va dire, féliciter le travail qu'il propose en première ligue. Quand on connaît en plus l'intensité, c'est un joueur qui connaît la rigueur physique, qui connaît l'intensité des duels. Et donc, la montée en puissance, comme tu le dis, Mathéo, on peut l'avoir. Et moi, en tout cas, Lucas Digne, défenseur gauche titulaire, ça me pose aucun problème. Moi, je suis satisfait de ce qu'il propose en club déjà depuis plusieurs saisons, comme je l'ai dit, du côté d'Aston Villa. Donc, c'est positif, tu l'as dit.
Ouais, et puis c'est aussi quelqu'un qui a l'habitude des matchs à haute intensité également. Il a quand même joué au Paris Saint-Germain, il a joué également au FC Barcelone. Alors jamais en tant que titulaire forcément, mais il a eu des matchs. On l'a vu, à l'époque il était quand même souvent critiqué, parfois à tort, souvent à raison. Et c'est vrai que depuis il a trouvé un véritable équilibre, donc ça fait du bien de le voir ainsi. Concrètement, alors c'est dur de se projeter, surtout avec des matchs amicaux, mais cette équipe de France, vous, elle vous rassure avant la Coupe du Monde? On a dit qu'on n'était pas inquiet, mais est-ce qu'elle vous rassure?
Pour la Coupe du Monde, non, pas vraiment. On va dire que l'équipe de France, au vu de ce qu'on a vu des prestations des deux dernières Coupes du Monde, on veut aller chercher cette victoire en finale. Et avec le jeu proposé actuellement, c'est clair, c'est compliqué. Donc, il faudra forcément espérer qu'on aura un maximum de joueurs en forme, qu'on aura un Kylian Mbappé, un Ousmane Dembélé, un Désiré Doué. Voilà, tous ces joueurs qui seront en grande forme pour ce grand événement. Mais c'est clair que si on joue la Coupe du Monde comme on joue actuellement les qualifs du Coupe du Monde, ça va être un peu serré quand même pour passer.
Bah oui, c'est sûr. Et puis surtout. Quand on est l'équipe de France, maintenant, notre statut, il est clair. Quand on arrive à la Coupe du Monde, l'objectif, c'est quoi? C'est de gagner le titre. Et tout le monde le sait aussi. Mais en fait, on va dire par rapport à ta question, si c'est rassurant ou pas, en fait, c'est que faut aussi jauger le niveau des autres équipes. Et quand je vois une formation comme l'Espagne, par exemple, sur le principe, même sur des matchs de qualification, l'Espagne est une équipe qui tourne assez bien, qui a aussi des blessés, et pourtant continue d'avoir une certaine domination. Et en fait, c'est justement ces équipes qui montent en puissance, qui peuvent nous faire peur, et on se dit, est-ce que finalement, le jeu proposé et ce qu'on voit, est-ce que ça peut nous permettre d'aller chercher des équipes comme l'Espagne, qui nous ont battus à l'Euro déjà? Donc, à voir. Il y a des formations comme l'Allemagne par exemple qui ne m'inquiète pas, en tout cas de ce qu'ils montrent sur ces matchs de qualification, mais l'Angleterre on peut en parler, voilà, sous Thomas Tuchel, qui en plus lui dit et estime que son équipe arrive en position d'outsider au mondial, en tout cas c'est lui qui le dit, alors qu'on sait très bien les qualités d'un effectif complet anglais. Et après on peut parler aussi des nations comme l'Argentine, comme le Brésil. Donc oui, quand on compare. Et je pense, enfin, je parle surtout de l'Espagne parce que c'est celle qui reste le plus impressionnante à avoir joué, à avoir évolué. Alors là, on peut se dire, est-ce que des équipes comme ça, on pourra aller les chercher?
C'est une question auquel on ne peut pas répondre en non. Avance, mais forcément, on va suivre aussi la saison de certains de nos joueurs pour voir, justement, on sait que Kylian Mbappé fait un début de saison assez étincelant à l'équipe de France. C'est pas Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé, c'est quand même un pan essentiel. On verra, affaire à suivre. En tout cas, des Français qui performent, on en a eu, Paulin.
Et oui.
Un Français.
Un Français, mais... Et moi, j'ai une belle histoire dont je dois vous parler, le genre d'histoire qui nous rappelle pourquoi on aime le sport, le genre d'histoire qu'on aime raconter, le genre d'histoire qui nous fait rêver. Il était une fois, sur les cours de tennis de l'université de la Texas A&M aux États-Unis, deux joueurs s'entraînaient dans l'espoir de remporter des matchs sur la scène universitaire. L'un d'eux s'appelle Arthur Rinderknecht, il est français originaire du Var, et l'autre s'appelle Valentin Vachereau, lui originaire de la principauté de Monaco. Mais ces deux joueurs ont un lien assez spécial, ils sont cousins germains et ils partagent une passion commune, celle du tennis. Leur avenir semble radieux et ils sont tous deux premiers à réaliser de belles choses sur la scène du tennis mondial. Faisons un bond dans le temps et rendons-nous au 29 septembre 2025. Dans leur carrière respective, ils n'ont jamais joué les matchs de premier plan tels que des finales de grands tournois. Le français se dresse à la 54e place mondiale et vient de signer sa plus belle performance en carrière en rejoignant les 8e de finale de l'US Open, montrant peut-être le meilleur niveau de sa vie. Et le monégasque, lui, pointe à la 204e place mondiale et n'a pas souvent été habitué à jouer des tournois du circuit ATP, beaucoup plus familier du circuit Challenger, comme le montre son classement. Mais à la date que je vous ai évoquée, celle du 29 septembre dernier, tout va changer, tout va se bousculer et leurs destins communs vont se lier pour écrire un chapitre de leur vie qui restera sûrement à jamais gravé. Tous deux se rendent à Shanghai pour participer au Masters 1000, le tournoi le plus prestigieux du circuit ATP après les Grands Chelems. L'un est sûr de rentrer dans le tournoi principal, l'autre n'est même pas sûr de jouer les qualifications. Mais la chance sourit toujours aux plus audacieux. Et voilà que Valentin Vachereau, qui avait fait le déplacement en Chine sans avoir la certitude de jouer ne serait-ce que les qualifications, est appelé suite au forfait de l'Italien Luca Nardi. Deux matchs se dressent face à lui et ce sera seulement après une double victoire que le Monégasque pourra rejoindre son cousin dans le tableau principal. Premier match, il perd la première manche face au 125e mondial et l'arrêt de son tournoi s'annonce prématuré, mais sa résilience lui permet de revenir dans le match et de s'imposer. Direction le deuxième tour des qualifs désormais pour y affronter le 118e mondial. Scénario identique, perte de la première manche puis gain des deux suivantes. Direction le tournoi principal pour Vacherot en quête de sa deuxième victoire en carrière sur le circuit ATP. Un premier tour maîtrisé sans difficulté face au Serbe Laszlo Djere. Nous sommes le 1er octobre et le voilà au deuxième tour. L'entrée en lice de son cousin a lieu le lendemain et malgré la perte du premier set, son adversaire est contraint d'abandonner pour blessure et Arthur rejoint son cousin au deuxième tour. Prochaine étape pour Vacherot, le coriace Alexander Bublik. Bon, il est temps de faire ses valises, Bublik est trop costaud, il remporte la première manche sans difficulté et on se dit tous que c'est terminé. Enfin, pas grand monde se le dit car à ce moment-là, Valentin Vacherot est inconnu des amateurs de tennis. Pourtant, le voilà qui se relève encore et vient à bout du Kazakh, signant déjà le plus gros exploit de sa carrière. Arthur gagne aussi au second tour face à Mikkelsen, et voilà que leur histoire familiale continue, ils sont au troisième tour. Pour les deux cousins, ça risque de se corser. L'un affronte le 30e joueur mondial Thomas Machak, l'autre affronte le 3e joueur mondial. Difficile sur le papier, mais loin de l'être sur le court, Arthur recrée l'exploit, et après avoir déjà battu Zverev au premier tour de Wimbledon, on en avait déjà parlé, le voilà qui recommence. Pour Vacherot, en toute décontraction, un 6-0 aura suffi à dégoûter son adversaire qui a abandonné quelques jeux après. Les deux sont en huitième de finale d'un Masters 1000. Ça paraît déjà irréel et voilà que les médias commencent à les mettre en avant et qu'on apprend à découvrir l'histoire de ses cousins. En huitième, Arthur est sur un nuage. Le retour du roi Arthur et de sa raquette Excalibur, comme j'aime si bien l'appeler, terrasse le tchèque Leshka en 2-7 gagnant et les quarts de finale lui tendent les bras. Pour Valentin, c'est plus compliqué. Le voilà mené d'un set et contraint à sauver deux balles de break pour empêcher le néerlandais Talon Griekspoor de servir pour le match. Cela ne lui a pas fait peur, il a sauvé ses balles de break et est allé remporter la deuxième manche après un tie-break taille patron, remporté 7-1, avant de finir le travail et de s'imposer dans la dernière manche. Tout commence à être réellement dingue pour les deux cousins, et les voilà pouvant s'octroyer le droit de rêver. Et si ils allaient le chercher ? La machine Rinderknecht-Vacherot était lancée, rien ne pouvait plus leur arriver. Tout était écrit pour que ces deux cousins se retrouvent en finale. C'était leur moment, c'était maintenant. Oger Aliassim et Medvedev pour le français, Holger Rune et Novak Djokovic pour le monégasque, un demi-finaliste de Grand Chelem, un vainqueur de Grand Chelem, un vainqueur de Masters 1000 et une légende du tennis. Vous pensez que c'était suffisant pour arrêter leur conte de fées ? La réponse est non. Et les deux cousins ont écarté tous ces joueurs de classe mondiale pour se retrouver en finale. Un exploit jamais réalisé venant ponctuer le tournoi dont ils ont toujours rêvé. Dimanche 12 octobre, voilà les deux cousins prêts à s'affronter pour s'adjuger un Masters 1000. Mais les deux n'ont cessé de le répéter. Ils avaient déjà gagné. La victoire était de s'y retrouver. Alors peu importe qui allait gagner, ils vivaient déjà un rêve éveillé. Et c'est Vacherot qui s'en est allé remporter le titre, marquant l'histoire de sa principauté, devenant le premier joueur monégasque à soulever ce trophée. Et voilà comment deux cousins ont propulsé leur famille sur le toit du tennis, et je dirais même sur le toit du sport. Un exploit qui ne sera sûrement jamais plus réalisé, deux cousins en finale d'un Masters 1000, dont le vainqueur signe le record du joueur le plus mal classé de l'histoire à remporter un tel tournoi. On rappelle qu'il est passé de la 204e place mondiale à la 40e place à l'heure actuelle. Tout était parfait, tout a semblé irréel, mais ils l'ont bien fait. Alors bravo Arthur Rinderknecht et bravo Valentin Vacherot, merci pour ces émotions. À jamais dans l'histoire de notre passion et moi, pour l'avoir vécu j'ai tout dit dans cette chronique, j'étais vraiment halluciné et bouche bée, ça avait l'air d'être tout droit tiré d'un film, c'était limite inimaginable. Alors forcément je me dois de préciser que Carlos Alcaraz était forfait sur ce Masters 1000 et que Sinner a été contraint d'abandonner pour cause de crampes, ce qui fait que en fait limite toutes les étoiles se sont alignées pour leur permettre d'aller chercher ce trophée, parce que de toute façon ils l'ont dit, mais c'était une victoire à deux, c'est pas que Vacherot qui a gagné, c'est aussi Rinderknecht.
Ouais, merci pour cette très belle chronique Paulin.
Et bravo à toi.
Débiter pendant 5 minutes comme ça, c'est fort. Mais c'est vrai que c'est une très belle histoire, on s'en souviendra, j'en suis persuadé, parce que outre le fait que ce soit deux Français, c'est en plus un record du joueur le plus mal classé qui gagne un Masters 1000, le premier monégasque. Ouais, c'est vraiment une histoire fabuleuse, et le fait que toutes les histoires soient alignées, c'est ça qui la rend encore plus belle, j'ai envie de dire.
Et oui, tout est vraiment. Tout était parfait, et même pour Vacherot. Alors, on va dire, le regret qu'on peut avoir nous en tant que Français, c'est que en fait arriver à cette finale, alors c'était déjà dingue, mais c'est vrai qu'en fait Arthur Hinderknecht aurait été le premier Français depuis Tsonga à Toronto à regagner un Masters 1000. Donc pour nous et notre palmarès français, ça nous aurait fait plaisir. Mais limite, enfin, Vacherot, voilà, il est monégasque, mais par rapport à toute l'histoire qu'il y a autour et Vacherot, voilà, il parle français. Enfin, on s'identifie quand même à un joueur comme ça. Alors pour le palmarès français, il rentre pas dans cette case-là. Par contre, il écrit l'histoire, comme tu l'as dit, du palmarès monégasque, c'est exceptionnel. Et c'est vrai qu'on voit là l'histoire de un peu la confiance, comment ça peut jouer le mental au tennis. Ils se sont suivis, ils se sont tirés la bourre. Quand l'un jouait, l'autre était dans la boxe de l'autre. En fait, tout est parfait. En huitième, en quart, Rinder sur le court, Vacherot dans la boxe, et ils s'encourageaient. Et au final, ils se retrouvent en finale l'un contre l'autre. Le coach de Vacherot, c'est le frère de Vacherot, enfin le demi-frère, c'est aussi le cousin du coup de Rinder Knecht. Enfin, tout est une histoire de famille, et c'est vraiment une des belles histoires comme on aime dans le sport, quoi, Mathéo.
Bah c'est vrai que c'est assez magnifique. Tu disais justement, on peut être déçu que ce soit par Rinder Knecht qui ait gagné pour le côté français, mais en fait c'est qu'un détail, ça paraît tellement irréel.
Complètement. C'est
n'importe quoi.
Ça me fait penser un peu à Charles Leclerc quand il a gagné son premier Grand Prix, que c'était
ouais,
ce qui était joué, on a un peu le seum, mais au final on était content.
C'est pareil, honnêtement, c'est des Français aussi, en tout cas dans le cœur.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que moi je trouve que ça nous rappelle quand même quelque chose. Forcément, c'est cette domination entre Sinner et Alcaraz, et le fait qu'en fait au final ce soit, on le sait déjà d'avance, même si c'est du show à chaque fois, mais c'est presque dommage en fait que ces deux-là soient là. Alors non pas pour le tennis, parce que c'est deux grands joueurs qui vont avoir une décennie encore de légende, voire plus, et ça va être monstrueux, ça va nous donner des batailles épiques. Mais c'est vrai que pour avoir ce genre d'histoire, il faut que les deux ne soient plus là. Et donc c'est vrai que c'est un peu dommage, mais au-delà de ça, c'est peut-être la plus belle histoire de cette année dans le sport, en tout cas une des plus marquantes, si ce n'est la plus marquante, parce que waouh.
Et puis c'est ça, en fait le lien familial, l'histoire qu'ils ont ensemble, et le fait que je regardais les interviews de Vacherot, et il le dit que Arthur c'est limite comme son grand frère, au-delà d'être son cousin, en fait ils se côtoient depuis qu'ils sont petits, ils mangent ensemble, et moi ce qui me fascine, c'est le fait qu'à un moment donné, jamais dans leur vie ils ont dû se dire, peut-être qu'ils se l'ont dit mais en rigolant, quoi, on se retrouvera en finale d'un Masters 1000, mais l'un contre l'autre.
Tu peux même pas l'imaginer.
T'imagines l'un contre l'autre, c'est-à-dire que c'était la première, c'est leur meilleure performance individuelle dans un tournoi majeur, même pour Rinder Knecht qui est quand même déjà mieux classé que Vacherot. En fait, ils sont en finale l'un contre l'autre, et plus je voyais le tournoi avancer, plus je me disais mais c'est pas possible, ils vont pas le faire. Quand tu vois Djokovic Vacherot, d'accord, Djokovic il a joué à 20%, il était blessé, mais même lui au filet, il lui dit à Vacherot, il lui dit mais t'as joué un tennis exceptionnel, tu mérites ta victoire. Je veux dire voilà, il pouvait rien faire Djoko, et ça montre, voilà, c'est, ils se sont tirés la bourre tous les deux, ils se sont dit que c'était possible, ils y ont cru. Et quand on voit Vacherot, parce que lui, Vacherot, pour le coup, il arrive, il est même pas sûr de rentrer dans le tournoi. C'est dingue, ça qui est dingue. C'est, en fait, c'est encore plus dingue, du coup, que ce soit Vacherot qui gagne, parce qu'il a les deux matchs de qualification qu'il aurait pu perdre, parce qu'il perd les deux premiers sets de chaque match. Enfin, tout est parfait. Moi, vraiment, cette histoire, elle me fascine. Et c'est sûr que, enfin, j'ai envie de les écouter parler. La Vacherot l'a déjà fait. Et en tout cas, si ça intéresse des auditeurs, de se renseigner, enfin, l'histoire est magnifique. Et c'était très beau.
Voilà, c'est vrai, ce sera sûrement marqué dans nos livres d'histoire plus tard. En tout cas, on l'espère. On va enchaîner sur le reste de l'actualité avec du cyclisme, Mathéo.
Oui, c'est ça. Sous un soleil d'automne rasant les collines lombardes, le Tour de Lombardie, donc 2025, a offert ce samedi un final à la fois attendu et fascinant, hein, le classique des feuilles mortes, qui s'est animé dès les premières rampes de la Madonna del Ghisallo. J'espère que j'ai pris un bel accent italien. Sous l'impulsion d'un Quinn Simmons intenable à mesure que la route s'élevait vers le Passo di Grande.
Il enchaîne.
La logique implacable de la team UAE s'est imposée. Hein. Rafał Majka pour sa dernière course en carrière et Jevine ont mené un train d'enfer avant que leur leader ne prenne le relais à 36 km de Bergame. C'est Pogacar qui s'est envolé, une accélération sèche presque programmée qui a immédiatement fait la différence. Remco Evenepoel, une fois encore, a tenté de limiter les dégâts sans jamais espérer revenir. Le Slovène a déposé les uns après les autres les derniers résistants, dont l'Américain Simmons, avant de s'envoler vers une cinquième victoire consécutive sur le monument italien. Avec ce nouveau triomphe, Pogacar rejoint Fausto Coppi dans la légende, vainqueur lui aussi à 5 reprises du Tour de Lombardie. Il boucle une saison à peine croyable, champion du monde, champion d'Europe, vainqueur du Tour de France et de 3 monuments, hein, donc le Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Jamais un coureur n'avait réussi à monter sur le podium de tous les monuments cyclistes la même année, un record de plus que celui de plus que les autres, hein, qui l'a déjà à 27 ans. Evenepoel a une nouvelle fois été dépassé, il finit donc deuxième, il a salué un champion d'une autre dimension, tandis que Michael Storer a complété le podium à plus d'une minute. Derrière la domination écrasante du Slovène, on a une autre histoire qui s'est écrite à Bergame, celle de Paul Sexas, 19 ans à peine, et déjà septième de son premier monument. On en parle toutes les semaines, mais le Lyonnais décathlon AG2R, la mondiale, déjà médaillé de bronze au championnat d'Europe, a tenu tête au meilleur jusqu'à l'attaque fatale de Pogacar. Avec cette performance, un Sexas devient le plus jeune coureur à terminer dans le top 10 d'un monument depuis 1917. Alors si Pogacar continue d'écrire l'histoire à coup d'exploits millimétrés, Paul Sexas incarne peut-être l'avenir. En tout cas, il découvre les sommets avec une aisance déconcertante et la promesse d'un futur éclatant. Donc c'était le dernier monument de la saison, hein, d'une année dominée par Pogacar qui se clôture. Moi, j'ai envie de revenir forcément sur l'année du Slovène, en tout cas pas forcément en détail, on va peut-être pas avoir le temps, mais est-ce que vous pensez que réellement l'année prochaine, il peut encore produire ce genre de prestations? Il a l'air parti pour, en tout cas. Il va marquer l'histoire du cyclisme, Pogacar.
Ah bah là c'est clair, là
si c'est pas déjà fait.
C'est peut-être déjà fait, mais c'est vrai que c'est surhumain. Et en fait c'est assez marrant parce que on parle souvent de, au tennis par exemple, la domination de Alcaraz et Sinner, et en fait au cyclisme là Pogacar c'est pareil, c'est le roi ultime sur cette saison de toutes les disciplines. Rien que sa performance au Tour de France où Vingegaard n'a clairement rien pu faire face à sa force. Champion du monde, champion d'Europe, tu le dis, encore un monument à son actif. C'est vrai que en fait Pogacar, s'il veut gagner la course, j'ai l'impression qu'il la gagnera. Et l'année prochaine, je vois pas, à part une éventuelle blessure, un pépin physique, une préparation manquée, enfin, je vois pas ce qui peut l'empêcher d'aller chercher encore une fois d'autres titres et de continuer en fait à rouler sur le cyclisme mondial.
Ça, c'est que cette année, il a pas tout eu. Pourquoi ne pas tout avoir l'année prochaine? Je pense peut-être ça sa mentalité, j'en sais rien, mais ouais, c'est clair que le comparatif entre Pogacar et le duel Sinner-Alcaraz, il est tout à fait faisable, dans le sens où Sinner-Alcaraz, on risque de les retrouver en finale pendant de longues années. Là, Pogacar, peut-être pas pendant de longues années non plus, mais on risque de le retrouver à chaque fois dans le haut des classements généraux et à la victoire d'étape des monuments, il n'y a pas de doute, je pense.
C'est vrai que moi, je me mets à la place d'un cycliste. Forcément, soit Evenepoel, soit Vingegaard. Je vois Pogacar sur la feuille. Je me dis, c'est chiant.
C'est perdu.
C'est perdu. Je peux même pas essayer. Enfin, concrètement, là, cette année, il a quand même marqué le cap avec Vingegaard, qui jusque-là, voilà, ça se tenait. On a eu des éditions où Pogacar, forcément, a perdu face à Vingegaard. Et là, il est parti trop loin et c'est vrai que pourtant on a quand même une belle génération derrière. Evenepoel, c'est un énorme crack du cyclisme aussi, qui confirme quand même tous les espoirs qu'on avait plus ou moins mis en lui. Donc on verra. Honnêtement, c'est vrai que il a dit qu'il arrêterait sans doute après les Jeux Olympiques, les prochains Jeux Olympiques. On verra si c'est vrai ou pas. Ça serait en même temps bien et à la fois un peu embêtant. On a envie qu'il aille jusqu'au bout de sa légende, qu'il la marque comme forcément Marc Marquez ou d'autres sont en train de le faire, hein. Je fais le parallèle avec la moto parce que c'est deux grands champions aussi, peut-être les deux plus grands champions modernes de leur catégorie et de leur sport. Mais honnêtement, moi je suis désabusé face à cet homme qui a quand même, je crois, perdu le Poggi défi. Je sais plus, j'ai lu un truc comme ça sur l'équipe tout à l'heure. Donc il a perdu une course aujourd'hui apparemment contre un amateur.
Fin de carrière.
Voilà, mais bon, c'est une petite course. Hein,
mais c'est moi la seule image que j'ai de Pogacar un peu défait, c'était sur la dernière étape du Tour de France. Où c'est Evenepoel, il me semble, justement, qui arrive à le décrocher.
Ah, ou Wout van Aert.
C'est Wout van Aert.
Wout van Aert, pardon, qui arrive à le décrocher.
Et Wout van Aert aussi.
Bah voilà, ça, évidemment. Mais c'est la seule image, je pense, que j'ai de cette année où on voit Pogacar faiblir dans une côte, quoi.
Ouais, et puis après, c'est vrai que, en soi, c'est, on peut le relativiser parce que oui. Pogacar, il avait le tour dans les pattes. Et Wout Van Aert, c'est ça. En plus, en fait, déjà, le fait qu'il aille la jouer, c'était déjà assez remarquable parce que ça nous a donné une course assez mémorable sur la dernière étape. Et puis, Wout Van Aert, lui, son Tour de France, il l'avait dit, c'est objectif, essayer de gagner une étape. Là, il gagne la, peut-être la plus belle, du coup, avec Montmartre et puis l'arrivée sur les champs. Donc, il a donné, il a fourni limite son plus gros effort là, alors que Pogacar, lui, son effort, il l'avait étalé sur toute la course. Donc, non, mais oui, je pense que c'est assez dingue. Et après, comme tu le dis, s'il confirme ses propos et qu'il arrête sa carrière, du coup, après les JO, la place sera libre pour Paul.
Exactement. On va arrêter de parler de lui toutes les semaines quand même, mais c'est vrai que il nous est pas toujours, hein, forcément, il est en train de battre tous les records de précocité. J'ai peut-être le temps de parler un peu du Cap-Vert.
Très rapidement.
Forcément, parce que c'est une page d'histoire, hein, qui s'est écrite lundi soir à Praia. Le Cap-Vert, petit archipel perdu au large des côtes africaines, disputera la première Coupe du Monde de son histoire en dominant l'Eswatini 3-0. Les requins bleus ont validé leur ticket pour le Mondial 2026 et deviennent par la même occasion le plus petit pays en superficie jamais qualifié pour une Coupe du Monde. Hein. Appel 4000 km², un peu plus d'un demi-million d'habitants, le Cap-Vert devient une fierté pour tout un continent. Hein, ce pays indépendant depuis seulement 1975, qui n'avait encore jamais goûté à un mondial. Sa régularité récente à la CAN annonçait déjà un changement de dimension. Et pendant ce temps, c'est le Cameroun qui a été accroché par l'Angola et qui devra donc se contenter d'espérer un passage par les barrages. Le vent de l'histoire souffle désormais sur l'Atlantique. Le Cap-Vert, minuscule sur la carte, immense dans le cœur des passionnés, qui rejoint le grand bal du football mondial qui aura lieu en 2026.
Et voilà, c'était la deuxième belle histoire de cette émission après le tennis.
Quoi, le sport a encore quelque chose à nous sortir de son chapeau finalement.
Tout à fait, c'est sur ces belles paroles qu'on va conclure cette émission, qu'on va vous souhaiter une bonne soirée et qu'on se dit évidemment à la semaine prochaine.